de défis à relever.
Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux, qu'est-ce qu'il y a de plus riche pour l'homme, l'être humain que la liberté?
Ce dépotoir a été fermé parce que
nous mettons l'accent sur la couleur du bon miel. Les gens se posent cette question.
Tous les services qui accueillent,
on ne voit pas circuler les bêtes comme ça.
Ils sont censés défendre la veuve et l'orphelin.
Et quand il y a quelque chose, votre carrosserie, c'est votre peau.
Donc du coup, je pense véritablement que
il ne faut pas perdre du temps sur des revendications, excusez-moi, qui n'en valent pas la peine.
Les gens se lèvent le matin à 7h, ils disputent la route avec les gros camions.
Les surcharges sur les tricycles, on en voit tous les jours.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Très heureux de vous retrouver sur la nouvelle génération. Bonjour, merci de nous choisir puisqu'il est 11h et c'est le top départ, l'heure du top départ même d'ailleurs de cette émission Club de la Presse. Merci de nous recevoir pour ce deuxième numéro de l'émission Club de la Presse pour le compte de cette semaine. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Thomas était d'ATV, était à la mise en onde, Jérôme Akouta assure la mise en ligne, je suis au micro Pascal Lossou. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpame, Centrale FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et Radio Dapaon, bien sûr, Radio Courtoisie, j'allais dire, à Dapaon. Et désormais, nous comptons parmi nos radios partenaires, Sky FM, depuis Badou qui relaie à partir de ce jour l'émission Club de la Presse. Vous avez aussi le privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, le débat et l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi. Nous sommes au mardi. Eric Pakoudjo-Djosson est là. Eric, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour chers collègues, bonjour chers amis, auditrices et auditeurs de Canal FM.
Bien démarré la semaine ?
Oui, ça va, ça va.
D'accord. Jean-Baptiste Atissou, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent à travers le monde entier.
Voilà, vous nous avez manqué quand même.
Et justement, il y a un petit bail. Ou m'avoir manqué aux éditeurs et auditeurs de Canal FM.
Tout à fait.
Dans ce studio. Donc, nous estimons que nous avons repris pour de belles.
Justement, nous avons repris alors pour de belles. Vous reprenez bien sûr pour de belles. Alors, dans cette émission, je vous rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Écho du Monde. Et c'est un bimensuel d'actualité togolaise et d'information, bien sûr.
Naturellement.
Vous avez un site corps diplomatique.
Oui, news.tg.
Voilà.
À travers lequel nos auditeurs et nos lecteurs nous connaissent depuis plus de 10 ans maintenant. Nous avons jugé bon quand même d'évoluer vers un support papier aussi. Et c'est ce support papier qui prend le nom de Écho du Monde.
Écho du Monde, c'est pour donner toutes les informations nécessaires qui font l'actualité. En temps réel et dans le monde entier.
C'est ça.
D'accord. Alors, je ne laisse pas Isidore Colos s'installer avant de le saluer. Isidore, bonjour.
Finalement, je suis installé. Salut à tout le monde.
Oui,
comment salut tu... Pascal, salut à tous et à toutes.
J'espère que vous allez bien.
Apparemment.
D'accord.
Apparemment. J'ai l'habitude de dire que togolaisement bien.
Togolaisement bien. Alors, Eric, nous savons bien parler alors de la culture, hein, déjà chaque mardi. Et vous nous donnez les sujets alors de la culture, hein, à débattre alors ici au Club de la Presse souvent. Et merci pour cela, hein, pour ce travail-là que vous faites alors chaque fois. Et ce matin, vous nous parlez alors d'un festival et vous parlez alors du FIHA. Et le FIHA, et vous dites que le FIHA, c'est du 14 au 17 novembre 2024. Et ce festival se précise.
Évidemment. le Festival international d'histoire d'Anera, le FIHA, qui est quand même à sa troisième édition, va se dérouler du 14 au 17 novembre 2024. Et ce festival-là, je crois, se précise, puisqu'il y a cela un mois, il y a eu une conférence de presse qui a été organisée par ceux qui ont en charge cette organisation-là. Et ils ont décliné les différentes composantes de ce festival-là. Et actuellement, il y a un comité d'organisation qui est en train de travailler sur le sujet, et je crois que tout est dévoilé. Alors, ce FIHA 2024, qui va se dérouler évidemment dans la ville tricentenaire d'Anera, où on parlera beaucoup d'histoire et de culture. Je crois que l'objectif, en réalité, c'est de montrer aux yeux du monde entier ce qu'est la ville d'Anera, qu'est-ce que la ville d'Anera offre à l'humanité, et évidemment, comment permettre à cette ville-là de se développer à travers sa culture, à travers son histoire et son économie, justement. Et donc, pour cette édition 2024, il y a un pays invité qui est la Turquie et une ville invitée qui est Lokossa, qui se trouve à côté de nous. C'est une ville du Bénin, et également une ville associée qui est Atapame. Ça veut dire que au cours de ce festival-là, nous aurons beaucoup à parler de ces trois espaces, à savoir la Turquie, Lokossa du Bénin, et puis Atapame qui va se joindre à Anera, hein, pour parler un peu de la culture togolaise. Et donc, il y a beaucoup de manifestations qui seront organisées. Et justement, je pense que quelque chose qui doit vraiment intéresser aussi les opérateurs économiques, c'est ce forum Turquie-Togo, qui va être un forum où les gens vont échanger sur l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ils ont mis l'accent beaucoup plus sur les entreprises primaires, à savoir les petites et moyennes entreprises. Comment ces entreprises-là peuvent coopérer avec les entreprises togolaises, je veux dire, coopérer avec d'autres entreprises turques pour pouvoir évoluer. Comment ces entreprises peuvent coopérer entre elles et pour le bien des populations togolaises et turques.
D'accord.
Et au-delà, il y a également ce carnaval qui, l'année dernière, a ému les festivaliers. Vous savez que ce festival s'organise à travers toute la ville. On passe de quartier en quartier, de requin en requin, pour permettre quand même aux populations de voir, d'apprécier. Et comme cela se fait, vous savez, on a pris exemple sur un pays qui est le Brésil. Et évidemment, il y aura une école de samba au Brésil qui est invitée pour participer à ce carnaval-là. Au-delà de tout, il y a des conférences, il y a des débats, il y a des concerts et autres qui seront organisés au cours de ce FIRA.
D'accord.
Et donc, l'organisation, c'est bien. La ville, enfin, la commune Lac 1.
Et, vous voulez parler d'Anéro ?
Anéro, en collaboration avec la fondation Akereburu and Partners du maire, justement, Alessie Akereburu, qui organise ce festival-là.
Isidore, au-delà de tout, c'est un retour à la source, et là, on doit apprécier vraiment cela.
Je reste dubitatif, comme d'habitude, puisque dans son développement, moi, d'abord, le nom qu'on a donné, et FIRA ou bien c'est FIRA?
C'est FIRA.
Bon, Festival International de l'Histoire d'Anéro.
D'histoire.
Et dans son développement, il a dit que c'est pour faire connaître la ville d'Anéro ou ces rites, ces choses-là. Comment on peut parler d'histoire d'Anéro sans parler de l'histoire d'Anéro? Ça, c'est mon problème. Sur la sémantique, je ne serai jamais d'accord, à moins qu'on arrive à me convaincre. Jusqu'à présent, je ne suis pas convaincu de ce qui se passe là-bas.
Mais il y a des activités qui sont organisées.
Mais est-ce qu'on parle de l'histoire d'Anéro ou d'histoire d'Anéro? Puisqu'on dit que c'est ça la sémantique. Je suis dans la Bouyamini. Je n'arrive pas à comprendre, à cerner les contours même de ce festival.
Et vous voulez plus d'explications?
Oui, oui, mais jusqu'à présent, on fait des développements qui n'arrivent jamais à me convaincre. Peut-être que c'est moi qui ne comprends rien.
Vous avez pu trouver des interlocuteurs quand même qui vous ont parlé de cela?
Non, peut-être que c'est moi qui suis taré, que j'arrive pas à comprendre ce qu'ils m'expliquent jusqu'à présent. Peut-être que les autres font comprendre.
Non, tel que je vous connais, vous n'êtes pas taré quand même.
On veut parler de l'histoire d'Anéro. Mm. Évidemment, quand on parle d'histoire, on dit Festival International d'Histoire d'Anéro. Et je crois qu'on ne peut pas parler d'histoire d'Anéro sans parler de l'histoire d'Anéro. Alors, je ne vois pas le problème avec Isidore depuis, évidemment, les trois éditions, les deux dernières éditions.
Je sais que nous avons toujours mené ce débat.
Il a eu toujours à soulever ce problème. Et lui et moi, on était allés en Europe pour, quand même, je crois, c'était le dernier jour. Oui, oui. Et pour regarder un peu ce qui se passe, il mais aurait
je,
pu...
Non, j'ai approché des gens,
oui.
Mais les gens n'ont pas convaincu.
Mais on vous a donné quand même des explications.
Des explications qui n'arrivent pas à me convaincre.
D'accord.
C'est pourquoi je dis que c'est moi qui suis
derrière. Là, il y a un problème.
Non, vous êtes
parce
en droit.
Qu'il y a un comité scientifique qui fait partie de l'organisation de ce festival-là, qui est dirigé par le professeur...
Tigbé?
Non.
Soranam.
Soranam et Bachana.
Bachana.
Il faut l'approcher.
Mais la deuxième édition, c'est là où je suis... Et déçu quand on parlait, ou bien c'était la première de Lola.
Oui.
Oui, oui. Mais on ne peut pas faire ça sans parler des Djamba, sans parler de tout ce qu'on a vu. Parce que, avant tout,
Anéro,
toutes les grandes familles sont esclavagistes. Il faut qu'on arrive à crever l'abcès. Et si on veut parler de la vie d'Anéro, pourquoi on parle de Tchambaga? Pourquoi on parle de qui ne sont pas de nos rituels?
Et pourtant,
d'accord.
Oui, mais c'est lié à l'histoire d'Anéro.
Mais pourquoi ne pas inviter ceux qui ont subi l'histoire d'Anéro?
Comme qui, par exemple?
Voilà, comme qui?
Ouais, je parle des Tchamba, des Kambolé.
On doit inviter quand même Isidore pour faire vraiment même des communications au cours de ce festival.
Écoutez, nos jeunes historiens, ils ont le diplôme, hein. Ça, je n'ai rien à dire là-dessus.
D'accord.
Mais est-ce qu'ils maîtrisent l'histoire de nos contrées? Non.
Pourquoi non, Isidore? Les gens sont en train de faire des recherches depuis des années.
Comment
toi qui n'es pas un historien, tu arrives à maîtriser tout ça et les historiens n'en connaissent rien.
Les diplômés se sont inspirés des publications des Européens.
Non, pas forcément, il y a un travail de fond. Le professeur Goué Akoué a fait des travaux énormes, c'est des travaux scientifiques,
Isidore. Alors, Jean-Baptiste,
c'est scientifique, moi je ne le vois pas.
Oui, c'est votre avis, il n'y a pas de souci pour ça. Jean-Baptiste, voilà, quand nous parlons alors de ce festival, tel que je posais la question à Isidore, c'est en quelque sorte un retour à la source. Et là, notre pays en a besoin, chaque localité pratiquement de notre pays, j'allais dire.
Oui, justement, chaque localité en a besoin, justement, pour faire valoir, disons, sa culture, on peut le dire. Et je ne voudrais pas trop m'immiscer
dans le débat
entre Isidore et
Eric,
mais parce que moi, peut-être au niveau de la formulation du festival, peut-être c'est ça qui n'agrée pas trop Isidore en ce qui concerne
il va même jusqu'au niveau même d'ailleurs du contenu, parlant de l'histoire, oui, de la vie d'Aného.
À son niveau, il faudrait que peut-être les autochtones d'Aného puissent être invités à ce festival pour pouvoir donner leur point de vue, rappeler peut-être à la jeune génération l'histoire de la vie d'Aného. Peut-être c'est ce qu'il peut-être souhaiterait avoir lors de ces festivals.
Ça se fait.
Et au-delà de ça, moi, j'appréhende le sujet sur le plan plus culturel. Parce que si c'est l'histoire, c'est bon de rappeler quand même l'histoire des pays, mais, ou bien des localités. Mais aujourd'hui, ce que nous devons privilégier plus, c'est la valorisation des cultures. Parce que c'est ça qui intéresse plus les touristes, comme il a si bien dit, des autres localités. Qu'est-ce qui se fait? Quelle est la plus-value que les autres cultures, ou bien les autres localités pourront tirer de chez nous? Donc c'est ça que nous devons quand même mettre en exergue pour pouvoir peut-être attirer les touristes. Et non seulement cela, engranger des ressources pour nos localités qui ont besoin aujourd'hui avec ce processus de décentralisation qui est en cours, ont besoin de ressources, surtout financières, pour pouvoir amorcer leur développement. C'est sous cet angle que moi je veux aborder le sujet, parce que si je me réfère à d'autres localités du monde, à d'autres espaces, je crois que nommément l'Égypte, les pyramides qui sont dans ce pays constitue aujourd'hui une grande source de revenus pour ce pays, parce que des milliers de touristes de par le monde affluent chaque année pour pouvoir aller voir et toucher du doigt ces réalisations historiques que les pharaons ont pu réaliser et qui ont survécu à travers des siècles aujourd'hui. Donc c'est peut-être cet aspect aussi que nous devons chercher à faire valoriser dans nos localités respectives pour que aujourd'hui nous ayons vraiment de quoi susciter des visites des touristes.
Attirer surtout l'attention alors des uns et des autres à l'extérieur. Adam Andronou, bonjour.
Bonjour Pascal.
J'espère que tu vas bien.
Oui, ça va. Bonjour aux auditeurs de Canal FM.
Nous sommes en train d'aborder un sujet culturel, bien sûr. Nous parlons du FIRA, du FIRA, la polémique. C'est parce que vous voulez mettre vraiment la polémique.
La polémique.
Oui, nous parlons alors de ce festival qui est FIRA et qui prône même d'ailleurs le retour à la source. Je pense, à mon avis, mais il est très important que nous, Togolais que nous sommes, nous allons vers même d'ailleurs ce retour à la source.
Ben vous savez, moi je vais plus m'apesanter sur la finalité, parlant justement de la connaissance même de notre histoire. Vous savez, moi je pense que lorsqu'on dit que, en prenant l'approche qu'a abordé Isidore tout à l'heure, moi je pense que c'est un peu personnel. C'est trop personnel dans la mesure où il n'y a pas plus longtemps, quand quelqu'un évoquait le même sujet, je l'ai dit, c'est trop personnel. Puis lorsque, et ça aussi, je pense que c'est une question de communication. Parce que vous ne pouvez pas finir, ou surtout si nous remontons l'histoire, nous prenons pas une génération maître, lorsque vous sortez, et lorsque les mémoires qui sont produites en réalité sont faites dans le but de résoudre des problèmes ponctuels dans nos sociétés. Et lorsque, mais malheureusement, ces mémoires-là sont toujours destinées aux bibliothèques. Or, en réalité, c'est pour résoudre des problèmes. Et le financement de la recherche est orienté en ce sens-là. Et lorsque vous faites un tour, vous verrez véritablement que les mémoires qui sont faites dans le but de parler de nos justes coutumes. Et il y a des questions réelles qui sont posées. Ils finissent, des études qui sont sorties, mais malheureusement, restent dans les bibliothèques. C'est en réalité ce qui fait que d'aucuns pensent qu'en réalité, en tout cas, la question ne se pose pas à la hauteur des souhaits parce que ce n'est pas rendu public. Donc, moi, je pense que c'est une question de communication. Sinon, il y a plein de mémoires qui parlent, que ce soit dans l'Europe, partout ailleurs. Vous verrez qu'il y a des générations maîtres ont toujours écrit des mémoires dans ce sens-là. Et donc, je pense que pour éviter qu'on personnalise un peu le débat, il faudrait véritablement faire le tour et inviter réellement donc ce département-là à mettre, en tout cas, à découvrir ces études-là qui résolvent un certain nombre de problèmes.
D'accord. Isidore, non, je ne personnalise pas le débat.
Non, qui pas peut, le débat, je oui, dis, concernant oui, oui, la finalité.
Même la finalité. Ouais. Qui peut me dire le premier quartier d'Anero? Qui d'entre vous?
Est-ce que nous avons les mêmes connaissances?
Non, nous n'avons pas les mêmes connaissances.
Donne l'information que tu veux donner.
Voilà, oui.
Comment
Isidore, vas-y.
C'est Aplero. Qui connaît Aplero aujourd'hui? Si on veut parler de l'histoire d'Anero, il faut commencer par là. Depuis, j'ai suivi les trucs là. On n'a jamais parlé d'Aplero.
Non.
Bon, continue.
Non, Isidore, vas-y.
Mais si tu as posé la question, tu as dit que tu ne le connais pas.
Isidore, vas-y.
Je n'ai pas dit ça.
Tu as dit que tu ne le connais pas.
Isidore, vas-y.
Mais on ne peut pas parler d'Anero sans parler de Badagli.
Isidore, vas-y dans ton développement. On te suit.
On ne peut pas parler d'Anero sans parler de Badagli. On ne peut pas parler d'Anero sans parler de Adjido. Comment Adjido est créé? Et on l'a essayé, mais je suis resté sur ma soif.
Comme vous avez l'information, oui. Vous avez au moins cette connaissance, pourquoi ne pas aborder
C'est ça le problème entre et la tradition orale et ce que véhiculent nos intellectuels aujourd'hui, dont les rendus sont calqués sur l'approche des Européens.
D'accord. Et Eric,
ce que je voudrais dire, tout simplement, voudrait-il qu'on dise festival international d'Aplero?
Je n'ai pas dit ça.
Je pense que Isidore, il faut assister à toutes les conférences, à tous les débats qui sont organisés mais attends, tu es journaliste. Tu émets des critiques par rapport à ce festival-là.
Les rendus
alors
que moi je vois.
Mais les rendus de qui?
Mais on fait des reportages, non?
Et justement.
Oui, quand je lis.
Pour la fiabilité.
Allons-y.
Ils sont de l'autre côté de la plaque.
Allons-y. Un à un.
Je pense, la réalité que, au-delà de tout, c'est vrai, Isidore s'intéresse beaucoup à l'histoire. Je connais notre confrère, notamment Dieudonné Takuda, qui s'intéresse aussi beaucoup à l'histoire. Il a écrit des choses concernant l'historique même des Anero. Il y a un chef traditionnel qui était ému, quand bien même qui n'est pas de la localité.
Oui.
Même je pense qu'il faudrait véritablement qu'on rehausse un peu, en tout cas faire des entrecoupes. C'est pourquoi il dit c'est très bon de revisiter, par exemple, la bibliothèque de l'université de Lomé. Vous verrez des études. Ce n'est pas fondamentalement ce qu'on pense que le colon a laissé. Aujourd'hui, les gens vont sur le terrain, ils interrogent, et ils reviennent avec des rendus qui sont plus ou moins lointains de ce que le colon a laissé. Moi, c'est tout ce que je vous ai dit, c'est en ce sens que je parlais de personnaliser le débat, parce que justement, on ne l'a pas rendu public. Que les docteurs pensent que ça ne se fait pas.
Voilà. C'est donc il faut assez de communication.
Mais personnellement, je pense
oui, Eric,
au cours des débats qui sont organisés pendant ce festival-là, il y a des questions qui sont posées aux historiens et ils donnent des réponses par rapport aux études qui ont été faites autour de la vie d'Anéron. On ne peut pas aujourd'hui dire que nous voulons parler de l'histoire d'Anéron sans faire une étude, sans mener ce qu'on appelle des recherches ethnologiques ou sur le terrain. Je pense que à Isidore, ce qu'il faut, c'est d'y aller, de suivre ces débats, ces conférences-là, et d'apporter sa contribution. Parce que peut-être celui qui t'a donné toutes ces informations, puisque tu n'es pas de ce temps-là, mais peut-être que, comme on dit chez nous, un vieillard qui meurt, c'est toute une bibliothèque qui meurt. Peut-être que ce vieillard-là est parti avec sa bibliothèque. Maintenant que toi, tu as quand même un pan de cette histoire-là, il faut la rendre publique. C'est tout simplement ça. Mais dire que ça ne se fait pas, je ne le crois pas.
D'accord, ok. Alors, nous allons quitter le sujet. Entre la culture et l'éducation, il n'y a qu'un seul pas. On sait que nos frères, nos enfants démarrent ce matin, ou ils ont démarré même d'ailleurs ce matin, le probatoire ou la première partie alors du bac du bac 2. Et alors, Isidore,
la première partie du bac.
La première partie du bac, bien sûr. La première partie du bac, c'est ça. C'est-à-dire le bac 1. Le bac 1 a démarré alors ce matin. Isidore, on dirait que déjà, on n'a quand même pas constaté quoi que ce soit comme incident. Tout a démarré bien sur tout le territoire national.
Non, je tire chapeau au ministère. On n'a pas eu de grabuge depuis pratiquement une dizaine d'années. Ou 5 ans, oui, mais avant il y avait des problèmes des surveillants et qui n'ont pas eu leur prime, ceux qui vont corriger n'ont pas eu leur prime et il y a eu un grand écart au niveau du traitement entre ceux qui vont corriger et surveiller au niveau de bac 1 par rapport à ceux qui font le bac 2, au point que ceux qui font la surveillance et la correction du bac 1 ne sont pas tellement motivés. C'est pas si aujourd'hui les données ont changé, puisque j'en faisais partie de ce lot. J'étais passé par là. Et la question fondamentale, est-ce qu'on a besoin de toujours garder le bac 1 dans notre cucula?
Parce que sous d'autres cieux, ça n'existe plus.
Ça n'existe plus. Ça freine certaines intelligences. C'est vrai, moi j'ai fait la série D. Il n'y a aucune cohérence entre le programme de première D par rapport à terminale D. C'est autant de questions que je me pose. Et depuis une trentaine d'années, j'ai eu mon bac 1 en 16, si je ne m'abuse. Mais je ne vois pas d'évolution. Je ne vois pas d'évolution. Sous nos yeux, on a supprimé le bac 1.
Vous parlez d'évolution par rapport au programme?
Non,
rapport à l'examen même.
À l'examen même. Et j'ai eu quelqu'un, il est très brillant en mathématiques, en physique, mais il n'a jamais franchi le cap de bac 1. Celui-là, il pouvait pas aller au baccalauréat, il va brillamment réussir. C'est un frère, c'est un tamis. Je ne sais pas pourquoi on l'a toujours maintenu.
D'accord.
Ça, c'est les mes petites observations que je voulais faire au ministère de l'éducation de second degré, non, ou troisième degré.
Non, second degré.
Et au directeur de l'enseignement supérieur.
D'accord. Jean-Baptiste, est-ce que vous avez aussi la même impression que déjà c'est un tamis qui est là et que normalement on doit l'enlever là?
Oui, le bac 1. Oui, je crois que bon, c'est véritablement un tamis puisque vous savez, si vous n'y réussissez pas, vous ne pouvez pas faire la terminale. Comme c'est d'habitude instauré dans le système togolais, puisque vous savez, c'est un examen et l'examen parfois réserve beaucoup de surprises. Il a donné l'exemple où des gens qui sont bien des cracks en salle, mais quand ils vont à l'examen, peut-être par malchance, ils n'arrivent pas à travailler le jour à l'examen pour pouvoir de totaliser les points qu'il faut pour pouvoir réussir à cet examen, ce qui fait que bon, y a des gens qui passent cet examen deux fois, trois fois, quatre fois et parfois ils sont dépassés par les événements, ils abandonnent, ils s'arrêtent au niveau de première. Donc ça fait que véritablement il y a des gens qui sont limités par cet examen. Mais si le verrou est sauté, ils pourraient quand même avoir la chance d'avoir leur bac 2, qui est aujourd'hui le diplôme le plus...
Le bac 1 n'est pas reconnu.
C'est ça. Donc, ce n'est pas, oui, le bac 1 n'est pas reconnu.
Comme diplôme.
Et donc, comme diplôme, comme tel, ce qui fait que aujourd'hui, bon, les décideurs qui sont dans le domaine de l'éducation doivent quand même mûrir l'idée pour voir s'il est opportun de maintenir cet examen-là, parce que ça crée vraiment des dommages à certains élèves qui perdent beaucoup d'années là-bas avant par chance de réussir, ou ils sont limités là-bas, ils n'arrivent plus à franchir ce cap. Le débat doit être réellement posé pour que le Togo ne soit pas le seul pays vraiment
dans
la sous-région à maintenir ce système qui freine beaucoup de concitoyens.
D'accord. Adam, c'est vrai que quand on prend toute l'année scolaire, telle que Isidore a dit, on n'a observé rien comme un incident. Et même d'ailleurs, quand on parle souvent de dans les années antérieures, on a toujours constaté alors ces revendications, des grèves, hein, des mouvements d'humeur au niveau des enseignants. Mais depuis un temps, nous n'observons plus cela. Je pense quand même que c'est à saluer.
Oui, c'est l'un des actifs du professeur Kokoroko depuis qu'il est à la tête du ministère. On a constaté véritablement, lorsque vous posez la question à tous les parents, ils vous disent non véritablement. Ce sont ces actifs-là qui sont pour la plupart du temps salués, les deux, notamment la rentrée et la veille des examens. Puis ce sont les moments les plus cruciaux des revendications où on dit, bon, on se dit, bon, les enfants vont passer les examens, on ne va pas corriger. On ne va pas rentrer parce qu'il y a telle ou telle chose. Si bien que, par le passé, les gens même avaient dit, lorsqu'on dit la rentrée est telle, certains parents même programmés savaient pertinemment que ça va être reporté parce que les bruits par là, ça court. Mais au même moment, vous savez, concernant donc le bac, il n'y a pas plus longtemps, et notamment lors de cette campagne présidentielle, de cette campagne législative et régionale, j'ai discuté avec un ancien inspecteur du secondaire qui me faisait un peu l'historique du bac 1. Il disait qu'il fut un moment où ça a été extrait des examens, mais c'était pour expérimenter quelque chose. C'est vrai qu'il y avait d'autres approches qui ont conduit à ce qu'on puisse donc l'extraire des examens, mais au même moment, comme ils ont fait l'expérience, je pense que ça doit être 2 ou 3 ans, mais ils nous disaient que les résultats c'était catastrophique. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas ce tamis là et que les élèves quittent la première pour la terminale, lorsque vous prenez la facture des notes qu'ils avaient corrigées, que c'était véritablement de la catastrophe. Donc, ce qui pourrait motiver, entre-temps, de réintroduire cet examen-là et faire en sorte que les enfants, au niveau terminal, puissent être des gens assez. Mais je pense que, comme on le dit, à quoi bon garder un examen qui n'est pas comptabilisé, qui n'est pas pris en compte dans l'ascension sociale, s'il faut le dire ainsi. Ça sert à rien, parce que quelque part, si c'est plus justement faire en sorte qu'on ait des élèves assez mûrs, on sait qu'aujourd'hui il y a des gens brillants, mais également le niveau a toujours diminué, parce que ce qu'ils nous disent, si nous remontons l'histoire, ces élèves-là n'ont plus véritablement les mêmes niveaux que ce que nous avons aujourd'hui. Il y a des élèves brillants. Donc moi je pense que lorsqu'on pèse les deux baromètres, vous constaterez véritablement qu'en réalité, cela ne sert à rien, puisque la finalité des examens, c'est justement l'ascension sociale. Et si cela n'est pas pris en compte, je ne vois pas en quoi on pourrait continuer par garder cet examen-là. Et l'essentiel est de pouvoir avoir un enseignement de qualité et faire en sorte que tout le mouvement, d'une classe à une autre, puisqu'on l'a dit, je pense que le vœu de l'enseignant, du ministère de l'enseignement, c'est faire en sorte, par exemple, pour cours primaire, qu'on n'ait plus assez d'élèves qui doublent les classes. Donc, ouais, l'échec soit réduit au maximum. Donc, faisons en sorte que la qualité puisse suivre et que les élèves qui quitteront la première vers la terminale ne soient pas vus comme des élèves qui n'ont pas le niveau terminal qu'il faut et sortir avec des moyennes qui crèvent en tout cas le regard.
D'accord. D'accord. Eric, est-ce que ce n'est pas pour avoir toujours cette qualité au rendez-vous qu'on a pu garder aussi le bac 1?
Je dirais oui. Alors, je pense que quand nous disons que le bac 1 n'existe plus dans d'autres pays et tout ça, ce n'est pas forcément vrai. Parce que nous héritons tout du colon, hein, de la France. Mais ce qui se passe là-bas aujourd'hui, il n'y a plus le probatoire, mais il y a un examen en première qui s'appelle prépa-bac. C'est-à-dire que c'est pour préparer les élèves de première à mieux affronter le baccalauréat deuxième partie. Et ici, ce qui
Est-ce
se passe...
C'est un examen.
C'est un examen. Et je te donne tout de suite l'information. Va au lycée français, tu vas demander quel examen les enfants sont en train de passer depuis hier. Et justement, c'est cet examen-là de première pour préparer le bac. Et ce qui se passe là, c'est que les enfants passent cet examen et ils engrangent même des points. Si par exemple vous êtes en filière scientifique, vous passez les matières scientifiques, vous engrangez des points. Mais si vous perdez des points, ça vous fait le point, si c'est un point, ça fait un fois le coefficient. Si c'est coefficient 5, ça veut dire que vous avez moins 5 que vous devez rattraper au bac. Mais si vous avez plus...
Si vous n'avez pas de moyenne, ça.
Oui, oui. Si vous perdez un point. Maintenant, quand vous avez un point de plus, ça vous fait plus 5 qu'on ajoutera.
Le système est différent.
Ce n'est pas... Excuse-moi.
Oui, c'est une évaluation.
Non, mais Isidore, évaluation, c'est un examen. Okay. C'est un examen.
Tel que tu l'as décrit, c'est une évaluation.
C'est un examen.
Nous étions des enseignants.
Oh, Isidore.
Je dis,
actuellement, les enfants sont en train de passer cet examen. Hier, au lycée français, toutes les écoles qui font le programme français font passer cet examen à leurs enfants au lycée français.
Ceux qui n'ont pas validé leur UE peuvent aller à l'année à la classe supérieure. Réponds à cette question.
Je te donne l'information, je n'ai pas fini.
Voilà.
Je n'ai pas fini. Et tu es là.
On laisse Eric.
Oui,
Isidore, on laisse Eric.
Isidore, pour ceux que tu ne connais pas, laisse-moi au moins expliquer.
Allez-y, Eric.
Hein? Et je dis, quand, en première, quand tu, en classe, tu as ta moyenne, tu passes en terminale. Tu passes cet examen. Tu as des moyennes en moins. On te le multiplie par le coefficient et tu dois rattraper ça au bac. Toujours est-il que tu passes en classe supérieure.
Mais la grande différence.
Mais c'est quoi ton problème finalement?
C'est la grande différence.
Il y a une grande
différence. Non, pédagogiquement, il y a une grande différence.
Je ne dis pas que c'est la même chose.
Mais c'est ce que tu avais commencé, tu ne peux pas dire.
Pas dire quoi.
Ou me faire croire.
Non, mais ça, il fait croire quoi.
Isidore, s'il te plaît, on laisse Eric.
Excusez-moi, nous sommes en train de faire de la pédagogie, justement.
Je passe sur de la pédagogie.
Quand tu me dis qu'il faut enlever le bac 1, je dis non, il y a encore cet examen-là que les gens passent ailleurs, mais d'une autre façon. Et c'est ce que je t'explique.
Oui,
je ne dis pas que c'est le probatoire, Eric, parce que ici, c'est quand tu passes le probatoire, c'est au probatoire tu réussis pour aller en terminale.
Voilà.
Alors qu'ici, tu as ta moyenne en classe, tu passes en terminale, même si tu n'as pas la moyenne
dans tes matières de base
à l'examen.
Voilà, Eric, je pense que c'est là où se trouve, c'est là où se trouve le s'il vous plaît. Je pense que c'est là où se trouve la nuance, la question que pose Isidore.
Je pense qu'il ne faut pas tout contredire.
Non.
C'est-à-dire que cette information, je pense que Isidore l'avait pas.
Oui.
Qu'il me laisse lui expliquer.
Tout à fait. Donc l'information que vous donnez, je pense quand même que nous suivons tous ensemble l'information.
Et oui,
c'est bien. Maintenant, ce que nous voudrons poser comme question.
Oui, mais oui, justement. Ce ne sont pas les mêmes acronymes.
Tout à fait. C'est que ce ne sont pas les mêmes approches. C'est-à-dire, ce n'est pas un examen. Ce n'est pas un examen en soi. Peut-être que vous pouvez l'appeler examen, mais ce n'est pas un examen en soi. Parce que si ça te permet même d'ailleurs d'aller déjà en classe supérieure et que ça te fait engranger des points, alors ce n'est pas aussi un examen en soi. Parce que
c'est une évaluation.
C'est une évaluation.
Justement, c'est une évaluation.
C'est un examen avant le baccalauréat. Pourquoi on continue par faire cet examen? C'est pour préparer au baccalauréat. Ça veut dire que l'exemple que Adam a donné, c'est justement pour confirmer cela. C'est-à-dire qu'on prépare les gens au baccalauréat. On ne veut pas laisser les enfants quitter la première pour la terminale et passer cet examen. C'est là où il dit que les résultats ont été catastrophiques. Voilà.
Voilà. Oui. Donc là, oui, Jean-Baptiste.
Si on comprend bien, Eric, c'est que dans le système français, on fait ce prépa bac là, et si vous avez une moyenne, alors le point en surplus, vous aurez ça pour votre baccalauréat.
Voilà.
Et si c'est en moins, vous n'avez pas de moyenne, ce qui vous manque pour avoir la moyenne, on multiplie par le coefficient et on vous retranche cela lorsque vous allez passer le bac.
Le baccalauréat.
Donc, je crois que l'approche est vraiment différente de ce que
nous faisons
au Togo.
Tout à fait,
bien sûr.
Et peut-être, la portée de cette approche, c'est que si, au cas où vous avez la moyenne et le point en surplus, ça vous facilite la réussite au bac.
Justement.
C'est tout.
Et maintenant, on ne parlerait pas d'examen. Justement, on ne parlerait pas d'examen. Peut-être si le nom, c'est juste une évaluation.
Si c'est pas un examen,
c'est une évaluation.
Comment?
Il faut l'admettre.
Comment? Je ne l'admets pas parce que le système français l'appelle examen.
On ne va pas polémiquer.
D'accord, on ne va pas polémiquer.
Nous n'avons pas conçu le système. Mais les gens ont leur système et ils appellent ça examen.
De l'adapter à nos réalités.
Je ne demande pas ça.
Non, ce n'est pas le même système ici.
On ne demande pas ça, mais il ne faut pas me dire que c'est une évaluation quand les gens ne l'appellent pas ainsi.
D'accord, ok.
Voilà.
Mais en soi, dans le contenu, alors ce n'est pas un examen.
Je vais te dire.
Oui,
le même système, ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand vous avez un bac, avant de faire l'année universitaire, vous faites une année préparatoire. Ça existe toujours.
Comme ça se faisait dans les séminaires.
Oui. Ce n'est pas première année. C'est année préparatoire. Pour renforcer vos capacités, peut-être, et aborder la filière que vous voulez. Ça existe dans le système francophone.
Oui, il y a prépa bac, il y a prépa... Je vais encore vous dire.
Oui.
Eux-mêmes, ils appellent ça baccalauréat. Ils appellent ça je vais me rappeler très rapidement.
Au moment où vous vous rappelez, on donne la parole à Adam.
Ce que disait Isidore est réel dans la mesure où vous prenez aujourd'hui dans l'enseignement confessionnel, notamment les séminaires. Le système existe toujours. Lorsque vous voulez faire votre entrée au secondaire, au premier degré du secondaire, vous faites la classe de septième avant d'être admis. Et là, c'est le comportement, c'est le travail également. Il n'y a pas que le travail, mais également le comportement.
Mais là, si nous comprenons bien, c'est qu'il n'y a plus d'échecs.
Non, en réalité, ceux qui sortent
de là... Vous ne redoublez plus de classes.
Non, le problème, c'est quoi? Quand vous êtes recalé, ça existait en 60, dans l'année 70, 7e. Et c'est collègues protestants qui avaient initié ça. Ceux qui ont échoué, moi j'ai des amis qui étaient très, très brillants, mais n'ont pas eu le CPE. Je ne vois pas de CPD.
ce PEA 74. Et ceux-là, on ne peut pas les retenir. On vous fait passer en classe de 7e. C'est à mi-chemin entre 6e et 6e 2. Et quand l'examen de ce PE arrive, vous irez là-bas composer en tant que candidat libre. Quand vous réussissez, si vous avez la moyenne, vous passez en classe de 5e. Mais c'est des passerelles.
Ça n'existe pas. Le sonneur, lui, a continué jusqu'à les années même 2000. Vous constaterez que les petits séminaires, vous faites obligatoirement la classe de 7e avant d'entrer en 6e. Bon, qui n'avait rien à voir avec le CPE. Et même au niveau du supérieur également, il y a le séminaire prospédotique. Pendant qu'il vous permet, qu'on jauge vos capacités, voir si vous pouvez être prêt ou pas. Et là, c'est l'échec, vous arrivez en grand nombre. Mais après, tout ce sont des petits nombres qui...
D'accord. Eric ?
Non, j'oubliais justement là où je dis que ce n'est pas une évaluation, que c'est un examen. Ils appellent ça baccalauréat anticipé. Voilà.
D'accord.
Dans le système français, c'est le baccalauréat anticipé. Et donc, quand vous allez...
C'est le bac 1 anticipé.
C'est le baccalauréat...
C'est le bac 1 anticipé parce qu'on peut, comptabiliser... vos réussites et vos échecs. Des UE.
Mais pourquoi ils appellent ça baccalauréat anticipé?
C'est le baccalauréat. Parce que
c'est ça l'objectif. C'est un examen.
Non.
Je refuse.
Ok, on va aller. On va aller à l'information.
Merci beaucoup, président. Actuellement.
Oui, d'accord. Merci, Eric.
Au lycée français.
Merci, Eric. Merci beaucoup. Nous allons parler maintenant de l'énergie. Nous allons quitter l'éducation pour parler de l'énergie, puisque le débat, c'est vrai, le débat est vraiment très intéressant. Parlons de l'énergie. Le samedi dernier, nous savons que la ministre de l'énergie était devant la presse. Je veux bien parler alors de Madame Mila Aziablé, qui a donné les raisons pour lesquelles aujourd'hui nous subissons des coupures d'électricité dans notre pays. Et 4 raisons ont été données. Et Eric, vous titrez sur le sujet ce matin, crise énergétique au Togo. Mila Aziablé déballe tout sans tabou. Par rapport même d'ailleurs à cette conférence de presse animée, vous pensez que la ministre a déballé tout vraiment sans tabou?
Oui, justement parce que des questions lui ont été posées par rapport cette crise énergétique dans le pays, le pourquoi des choses, et elle a donné des réponses.
Mais il y a certains confrères quand même qui avaient voulu même poser aussi des questions
qui n'ont pas pu. Oui, parce qu'elle disait qu'elle était appelée ailleurs, elle devait répondre à d'autres rendez-vous.
Mais compte tenu de l'exigence de l'heure, voilà. Est-ce qu'on n'a pas besoin de répondre à toutes les questions?
Bon, je pense que fondamentalement, elle a abordé toutes les questions. S'il y a des précisions à donner, elle a dit qu'elle reviendra encore devant la presse pour donner de plus amples explications par rapport à la situation. Bon, la semaine dernière, j'avais essayé d'aborder également ces questions-là ici, et je crois que par rapport à mon travail que j'ai effectué personnellement, je m'étais même rendu au Ghana pour savoir un peu ce qui se passait, pourquoi le Ghana ne nous apportait plus assez d'énergie pour que la société puisse distribuer. Est-ce que c'était juste une question d'argent? J'ai poussé même très loin pour connaître un peu l'ardoise du Togo par rapport au Ghana. Et donc, je crois qu'elle a donné des précisions en disant, bon, enfin, un peu vaguement aussi, parce que moi, je croyais que, bon, on allait nous dire, bon, voilà ce que le Togo doit. Mais elle a dit tout simplement que si c'était qu'une question d'argent, que le Ghana allait tout simplement couper totalement ce qu'il fournit au Togo, de même que le Nigeria. Et donc, ce n'est pas qu'une question d'argent, mais c'est une question de disponibilité du gaz naturel. Je l'avais déjà dit la semaine dernière ici, en disant que si on devait tourner tous les groupes qui fournissent de l'énergie au Togo, je crois que la société allait s'éreinter parce que l'ardoise, hein, vous savez, il y a une société de la place. Peut-être que cette question n'a pas été abordée. Il y a une société de la place qui fournit de fuel à Global Contour et
Contour Global.
Contour Global et Kekeli.
Kekeli, voilà.
Mais cette société ne lui demandait pas de vous fournir du carburant et de revenir payer. C'est carte sur table, vous payez et puis elle vous livre. Voilà comment cette société-là fonctionne. Et ce qui fait que s'il n'y a pas de gaz, c'est un peu difficile pour mettre du carburant dans tous les groupes pour pouvoir nous donner de l'énergie. Elle a parlé de centrale Kekeli. J'avais
abordé aussi le sujet.
Voilà. Et donc, je crois que de façon globale, le vrai souci par rapport à cette crise énergétique, c'est la disponibilité
de sources d'énergie, surtout le gaz. Alors, oui, Isidore, est-ce que vous avez été convaincu par les raisons que la ministre a évoquées?
Pas du tout, pas du tout. On ne sait pas comment il a choisi les médias, mais libre à elle de choisir les médias, ça c'est une communication. Nous n'avons pas été invités. Je ne sais pas si les autres ont été invités.
Non.
Bon. Et les retours que nous avons, c'est que ceux qui ont été même invités n'ont pas pu poser les questions qui fâchent.
Non, la question de la population.
Les questions
qui fâchent.
Bon, voilà. C'est pas trop.
La question que la population attendait.
C'est moi qui parle.
Vas-y, Isidore.
Moi, j'ai suivi les rendus. Je me dis que, elle est plus dans une approche conjoncturelle, alors que le problème est structurel. Au-delà de ce qu'elle dit, qui est une évidence, qu'est-ce qu'elle préconise en tant que ministre?
Là, justement, c'est ça la question.
C'est là où je suis vraiment déçu. Je suis déçu. Mais elle nous parle du Nigeria qui devait nous fournir une quantité de carburant, enfin pas de carburant, de fuel et autres, de gaz pour pouvoir alimenter nos turbines. Eux-mêmes, ils ont les mêmes problèmes. De même que le Ghana. Pas plus tard qu'hier, vous avez suivi les informations, le Ghana est en train de mettre une centrale
nucléaire
pour 1000 kilowattheure. Et que faisons-nous?
1000 voilà. Mégawatts.
Mégawatts.
1000 mégawatts. 1000 mégawatts. Mais voilà, c'est ça ce qu'on appelle une vision prospective. Nous sommes toujours dans la gestion des crises. C'est là où je suis déçu de la sortie de notre ministre.
D'accord. Jean-Baptiste, est-ce que vous avez aussi été déçu? Parce que, déjà, quand on prend cette conférence de presse, on aurait quand même justement besoin des informations telles que les jours à venir, qu'est-ce qui sera fait?
Oui, justement, des propositions de solutions.
Tout à fait.
Oui, c'est ce à quoi la population s'attendait. Parce que nous-mêmes, bien sûr, on n'y était pas associés. Mais bon, ce n'est pas ça l'important. Les solutions à la crise, parce que cela perdure. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de secteurs d'activité qui pâtissent de ce délestage qui dure maintenant plus de 3 semaines.
Trois mois.
Non, avec acuité, ça a repris avec acuité, maintenant ça fait plus de 3 semaines. OK? Donc, je ne dis pas que ça n'existait pas. Ça a commencé depuis, mais bon. Peut-être ces dernières semaines, ça a vraiment repris avec recrudescence, et c'est ça qui interpelle, parce que aujourd'hui il y a beaucoup il y a les forages qui dépendent de l'électricité. Beaucoup de foyers n'ont pas d'eau, et au-delà de ça, il y a entre-temps la pénurie de carburant aussi qui s'est invitée au jeu. Ça fait que on a beaucoup de Loméens surtout se sont confrontés à 3 problèmes simultanément. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de carburant. Ça fait que ça a freiné l'économie du pays pendant un bon bout de temps.
C'est des besoins de base.
C'est des besoins de base. Mais aujourd'hui, que la ministre fait une sortie, beaucoup de Togolais attendaient des solutions durables à la crise énergétique qui secoue le pays. Mais on a été surpris qu'il n'y a pas véritablement des solutions qui aient été proposées par la ministre pour sortir de cette crise qui perdure. Et si on doit aller plus loin, je crois que nous devons vraiment peut-être rappeler au gouvernement, hein, parce qu'il y a quelques années, on nous a dit que le Togo allait devenir un pays émergent en 2030. Maintenant, nous sommes en 2024 et on ne voit pas les signes. C'est-à-dire que les actions qui sont menées qui pourraient propulser le pays vers cette émergence. Parce qu'on ne peut pas quand même, on ne va pas sauter d'un coup pour devenir un pays émergent.
Ce ne serait pas de la magie.
Pas du tout. Les pays asiatiques qui, aujourd'hui, qu'on classe parmi les pays émergents, ne se sont pas levés du jour au lendemain. Mais c'est un travail continu qu'ils ont fait. Et ça les a élevés à ce rang-là. Mais aujourd'hui, on voit que au fur et à mesure qu'on s'approche de 2030, plutôt une descente aux enfers en ce qui concerne les problèmes que le pays connaît de jour en jour.
D'accord. Adam, c'est vrai que entre-temps, on déplorait le fait que le gouvernement ne communique pas sur cette question, ou surtout le ministère de l'Énergie ne communique pas alors sur cette question alors de délestage. Mais aujourd'hui, avec une conférence de presse de la ministre, on pourra dire quand même qu'il y a un pas qui est franchi, c'est ça?
En tout cas, moi, il faut dire un pas franchi, puisque à partir du moment où la population attendait le gouvernement, tout du moins son commissaire qui est le ministre de l'Énergie, sur des points donnés qui n'ont pas été éclairés. Alors cette sortie-là, moi je me dis, elle a été, surtout lorsque vous lisez dans les lignes, elle a été vague. Elle est restée vague dans les approches abordées. Hier, moi j'étais dans une émission, on me posait la question de savoir est-ce que, par rapport à ce que les gens ont eu dire par le passé, ou c'était une question d'ardoise ou de Dieu. Et la question d'énergie qui a été abordée tout à l'heure, je dis, bon, est-ce que c'est ça la préoccupation des Togolais? C'est pas ça la préoccupation des Togolais. C'est qu'on puisse véritablement nous dire, dans un futur proche, tel temps, on aura la stabilité. On n'a pas eu cette réponse-là. Donc, peu importe la divagation qui se fait autour de la question, les Togolais sont restés sur leur soif. C'est vrai, lorsqu'on pose le débat sur les durs, on sait que dès le début de cette question, vous prenez par les agents ou la direction de la CET, il y a des sacrifices qui ont été faits. Il n'y a pas de gagner. Il y a des avantages qui sont coupés. Il n'y a pas de ceci, etc. Mais ils ont accepté, supporté. Ça voudrait dire quelque part que cette question de dû qui est posée est une question réelle. Qu'on ne peut pas aujourd'hui se soustraire et dire que voilà, c'est l'autre question seule qui est en avant. C'est vrai, ça peut être l'un des motifs, comme l'a dit Isidore, pour justifier un peu ces délestages, mais ça, c'est pas ça qui intéresse les usagers de la société. Ce qui les intéresse, c'est qu'on nous dit que voilà, à partir de tel moment, on est en train, on peut avoir une solution. Tel n'a pas été le cas, donc moi je pense que cette sortie pouvait être, en tout cas, ne pas se faire, parce que de toutes les façons, c'est comme si on explique en les béabas. Et les préoccupations sont restées les mêmes. Donc il faudrait quand même, lorsqu'on veut peaufiner une sortie, on peaufine une sortie pour donner des solutions. Mais lorsqu'on vient expliquer les problèmes, je pense que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On vient expliquer les problèmes. Ça ne sert à rien.
Parce qu'on a déjà les problèmes.
On a déjà les problèmes, on connaît les problèmes, les vieux au quotidien, on vient les expliquer encore.
Eric, est-ce que nous pourrons dire que c'est en quelque sorte un raté?
Non, pas du tout. Pas du tout. Du moment où, fondamentalement, il y a beaucoup de spéculations autour de cette crise énergétique. Les gens ont eu à dire beaucoup de choses et donc il fallait que les responsables du secteur mettent les pendules à l'heure. Et c'est ce qui a été fait. Toutefois, je crois, dans une phrase, la ministre a dit que nous sommes totalement mobilisés et faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour résoudre rapidement et de manière durable cette situation de crise énergétique.
Eric, ça ne veut rien dire.
Alors, c'est de l'incantation.
Oui, laissons Eric, s'il vous plaît.
Mais Eric, concrètement, qu'est-ce que
cette phrase, justement.
C'est le gouvernement.
Oui, mais Eric.
S'il vous plaît,
Isidore, laissons Eric aller dans son développement. Mais Eric, déjà, cette phrase que nous écoutons. Oui, allez-y.
Alors, vous savez, le Togo n'a pas la capacité aujourd'hui, comme le disait Isidore par rapport au Ghana, de mettre en place une centrale nucléaire pour produire de l'énergie. Ça coûte énormément. Et donc, il faut chercher un État. Non, mais c'est une centrale photo.
Eric, nous parlons d'un État.
On m'a dit qu'il y a Areva là-bas.
C'est pas une question d'Areva. C'est une question de capacité financière d'un État. Quel est notre budget aujourd'hui par rapport?
Madame, l'argent qu'on a mis dans le contrôle global. Kekeli et autres là.
Pris en compte dans la planification.
C'est une marque de vision.
Vous pensez qu'à la place de contour global, on peut mettre une centrale nucléaire?
Mais si on avait cette vision, tout le monde pouvait le mettre.
Mais allez chercher les informations, vous verrez.
Mais donne-nous les informations.
Justement, c'est pour ça que je dis que cela coûte énormément.
Combien ça coûte?
Mais
pour le fait que le Ghana le fait, le Niger le fait.
Quand tu as donné l'information sur le Ghana, tu as donné le coût.
Mais je dis que ça, je ne suis pas aux affaires. Comme toi, tu es aux affaires.
Merci beaucoup.
Arrête de parler. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Alors, je pense que nous allons quitter le débat parce que il est déjà midi. Nous allons maintenant faire, en quelque sorte, donner la parole aussi à nos auditeurs pour qu'ils interviennent alors pour dans l'émission Club de la presse alors de ce mardi. Mais Eric, entre-temps, il y a un auditeur quand même qui nous faisait comprendre que pour ce qui concerne le prix bac dont vous avez parlé, que ce n'est pas un examen. Parce que lui, il a fait même d'ailleurs cela aussi en France. Il a passé sa classe de première et aussi la terminale en France. Et ce n'est pas un examen. Alors, merci beaucoup.
On va anticiper. Justement. Il dit que ce n'est pas un examen.
Ok, merci beaucoup. Alors, nous allons maintenant faire un clin d'œil à nos annonceurs. Nous revenons juste après.
Le plaisir pour l'acquérir. Écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la presse et vous comprenez que nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez maintenant nous appeler au 22 21 33 114 91 36 63 75 Thomas d'ATV qui insère un premier auditeur. Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Je vais bien.
D'accord. Votre nom c'est?
Claude.
Claude.
Oui.
Vous nous appelez de?
Zongo.
Zongo, allez-y Claude.
Oui. Vous m'excusez. C'est bon, nous allons dire, si ce n'est pas bon, on continue à parler. Il y a des journalistes qui sont là, qui défendent l'indépendable. On a eu l'indépendable depuis 1960. Et on nous parle aujourd'hui que notre ce n'est pas faisable. Il y a comme Eric est le 108e député de l'UNIR. C'est là qu'il défend l'indépendable. Qui va suivre, ça le fait en force. Nous sommes tous là. Ça, ce n'est pas à défendre. Merci.
Merci beaucoup, Claude. 22, 21, 33, 114, 91, 36, 63, 115. Allô?
Oui, allô?
Oui, Basile.
Comment vous allez?
Ça va, et chez vous?
Togolaisement.
D'accord. Allez-y.
Bon, pour vous demander seulement, Eric nous a dit qu'il est parti au Ghana. C'est en qualité de qui et de quoi? Et que je ne sais pas, les journalistes aujourd'hui, on sait qu'ils ne sont pas bien cotés. Ils tirent, ils ne tirent même pas le diable à la queue. Ils vivent ensemble avec le diable. Mais lui, il est parti au Ghana. Bon, comme leur parti a gagné largement, ou bien c'est leur parti qui l'a envoyé, ou comment?
Non, quand vous dites leur parti, est-ce que Eric vous a montré vraiment sa carte de parti politique?
Non, en tout lieu, Eric et les autres défendent que le parti uni.
D'accord, ok. Merci beaucoup à vous, Basile. 22 21 33 114 91 36 63 75. Nous avons de la courtoisie, hein. Nous devons quand même parler avec courtoisie à nos invités. C'est très important. 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô?
Oui, allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez?
Bien, et vous?
Ça va aussi. Votre nom?
Voilà, ça, moi c'est Christian.
Christian?
Oui.
Vous nous appelez de quelle
voilà,
question?
J'aimerais intervenir à propos de deux interventions là.
Allez-y.
Je crois que l'ami Eric est commis par la ministre ou bien par le parti, par le gouvernement pour défendre ce qu'il ne sait pas bien. J'aimerais lui dire, un budget n'est qu'une vision valorisée en unité monétaire. Alors, si nous n'avons pas la vision, comment est-ce que nous pouvons donc voir ça dans nos budgets? Il n'a qu'à parler de ce qu'il sait. Moi, j'ai également passé le bac anticipé. Mais tel qu'il le décrit là, ce n'est pas ça. Mon ami Eric, retourne aux sources et aie bien les informations avant de revenir. Merci.
D'accord, merci beaucoup Christian. 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô? Oui, bonjour.
Bonjour.
Votre nom c'est?
Oui, allô?
Oui, allô, je vous écoute. Votre nom?
Oui, Apollinaire, bonjour le plateau.
Oui, Apollinaire, vous nous appelez de quel quartier?
Adoboukomé.
Adoboukomé, allez-y.
Bonjour, Isidore aussi, mon ami. Je voulais revenir sur un problème là, le probatoire. J'ai soutenu Isidore en ce sens. Et dans l'Imois, c'est l'autobusel qui a maintenu le probatoire. Mais pour les autres examens, on fait la conformité, mais au niveau du probatoire, le Togo maintient. Ça, je l'ai soutenu sur ce point. Sur le plan culturel, il parlait de au niveau d'Aného et de Tchamba. Mais qui nous disent les relations culturelles entre les lacs et Tchamba. Moi, par exemple, si je veux parler de Lobu ou Ife, si ma mère est originaire, on parle Ife dans le grand Obu. Et Esnolo, Ami, ça fait trois personnes. Mais dans la préfecture de Tchamba, le Kamboli, c'est un milieu, on parle Ife. Mais dans Yoto aussi, il y en a, on parle Ife. Si par exemple, s'il y a un événement culturel à Tapané, on a suivi les préfectures, ça nous donne une ligne de côté. Mais Tchamba cherche ça dans les lacs et autres. C'est mon ami, un éditeur.
Merci beaucoup Apollinaire pour votre intervention. 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô?
Allô, bonjour.
Oui, bonjour, comment vous allez?
Très bien.
Votre nom?
C'est Essor.
Essor?
Oui.
Vous nous appelez de quel quartier?
J'appelle de Agbalepido.
Agbalepido, allez-y.
Oui. Je me laisse prendre. Il y a une mairie vers Klikame. Je suis venu pour légaliser une légalisation. La dame me demande de payer 17 000. Je vais dans une commissariat. Je le négale à 500 francs. Donc, il y a deux dames qui sont là-bas, qui escortent les gens.
D'accord. Et ça?
Oui.
Voilà, c'est compris. Je pense que c'est... décidément, ça n'a pas trait quand même à notre émission. 22, 21, 33, 114, 91, 36, 63, 75. Allô? Allô? Allô, bonjour.
Allô.
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Oui, votre nom?
Noé.
Noé.
Oui.
Vous nous appelez de quel quartier?
Bénédi.
Bénédi, allez-y, Noé.
Oui. À propos de la crise énergétique, comment la ministre a communiqué là, c'est pas de cette manière que nous entendons, nous voulons. Quand on décide de communiquer, c'est eux qui maîtrisent les tenants et les habitants de la crise. Maintenant, ils doivent évaluer là, le temps qu'ils peuvent prendre pour résoudre ce problème. C'est ça que nous voulons. Ils nous disent que dans une semaine, dans un mois, dans deux ans, dans trois ans, le problème va prendre fin. Là, chacun saura comment s'y prendre. Actuellement, nous, au niveau de l'indicateur 2, on est à la maison du 27 mai au 25 juin pour congé de chômage technique dû au délestage qu'on nous a cité au tableau de ça. Et actuellement, nous sommes en maison. Et on va toucher les 25% de notre salaire à la fin de ce mois de chômage. Vous voyez comment c'est là-bas, c'est précis. Donc, jusqu'ici, quand le ministre nous dit que ils sont mobilisés pour trouver des solutions, oui, dans combien de temps? C'est ce que nous voulons. Mais quand ils nous disent leurs problèmes, est-ce que ça arrive de les résoudre? Nous sommes des consommateurs directs de la société. Quand on consomme, si on ne fait pas la chute, ils nous coupent. Maintenant, quand un ministère doit, ou une garnison doit, ce n'est pas à nous à cette explication, que ce soit une dette ou pas, ce n'est pas à nous de régler ce problème. Maintenant, ils n'ont qu'à nous dire que ça va durer combien de temps, l'aide des stages au taureau. C'est ça que le problème. Ça va durer un an, deux ans, ou bien une semaine, ou bien un mois. C'est ce qu'on veut. Actuellement, on est paralysé. Est-ce que l'État va venir nous aider à faire face au problème financier qui se pose à nous, qui travaillons avec l'électricité? C'est ça le problème dans le pays. Maintenant, quand on parle de centrales nucléaires et d'énergie nucléaire, là, est-ce que l'État n'a pas ses moyens? L'État doit avoir ses moyens parce que quand on parle d'un État, c'est un État. Ce n'est pas un individu. Comment les individus peuvent être plus riches que l'État? Ça n'a pas de sens. Donc, une fois que Eric dit que l'État n'est pas en mesure, non. Il faut que le ministère des Finances nous dise que l'État n'est pas capable, ni aujourd'hui, ni demain. Mais quand c'est un journaliste, et qui n'a pas été aussi haut d'information, pour parler sur la base des données du ministère des Finances, là, ce n'est pas bien.
D'accord. Ok. Merci beaucoup, Noé. 22-21-33-114-91-36-63-115. Allô?
Allô?
Oui, bon,
alors, bonjour.
Oui, bonjour, comment vous allez?
Je vais bien.
Votre nom?
C'est Monsieur Elé.
Monsieur Elé.
Oui.
Allez-y.
Et c'est par rapport au diplôme là. Probatoire.
Oui, allez-y.
Bon, moi j'ai voulu savoir si le probatoire n'est pas important. Pourquoi le gouvernement dépense pour la correction surveillance? Et tu vas voir que après tout, celui qui a le probatoire. Et celui qui a le BPC, il se retrouve dans un service, on les classe dans une même catégorie. Si c'est ça, ce n'est plus la peine de continuer à passer ça. Et deuxième question maintenant, c'est de la même manière que celui qui a le BPC et il a le CAP. Supposons exemple, s'il a le CAP en maçonnerie, en mécanique et autres là. Quand vous arrivez dans un service là, ils ne considèrent même pas ça. Ils disent toujours catégorie B. Ça, pourquoi il doit faire ça? Ça, il faut qu'il explique ça.
D'accord.
Merci.
Merci beaucoup, monsieur Yélé. Alors, pour votre intervention, 22-21-33-114, 91-36-63-75, c'est les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour. Ah, il est parti. Nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre auditeur. Allô? Oui, bonjour. Oui, votre nom, c'est...
Allô?
Oui, votre radio à côté de vous fait un peu de bruit. S'il vous plaît, vous pouvez diminuer son volume.
D'accord.
Oui, ça va mieux. Votre nom, c'est... Pardon?
Isidore. Oui.
Vous nous appelez de quel quartier?
Appelle depuis Anne-Copé.
Anne-Copé, allez-y.
Ben, je voulais juste les propos de
Non, mais on a un peu de mal à vous écouter. Aussi un peu la voix.
Oui, je disais que par rapport aux examens français et tout sur la ligne, je n'ai pas envie de dire que tout ce qui a été raconté n'est pas du vrai. Mais juste demander à Monsieur Johnson de pouvoir se documenter beaucoup et ne pas rapidement juste chercher sur Internet et puis parler devant le micro. Il faut être vraiment sur les informations parce que nous sommes bénéficiaires à 100% et j'étais très très énervé derrière mon micro si je pouvais faire apparition dans ce studio-là. Voilà. Mais bon, concernant le festival d'Aného, je pense qu'il faut aussi dire que ce genre de festival, c'est généralement des biennales. Et ça doit se faire tous les deux ans. Ça passe tellement vite. Et quand parfois il y a du creux dans le contenu pour pouvoir organiser ce genre de manifestation, on ne peut que mettre un peu de tout dedans. Parce que quand on veut parler de festival des histoires d'Aného, ou des festivals des histoires d'Aného, n'importe le truc, le contenu tel que ça a été donné tout à l'heure, ça ne devrait pas être ça. Et moi, je pense que nous devons faire vraiment profil bas pour écouter les uns et les autres. Hein. Il y a dit beaucoup de choses que, très sincèrement, moi, j'ai envie de me poser la question, comme Babylas pose souvent la question à un monsieur en boubou blanc quand il y a des séquences de pause. Il dit, on vous a donné quoi? On vous a donné exactement quoi pour faire tout ça? Et il dit qu'il n'est pas affamé. Il n'est pas un homme affamé. Donc, je voulais seulement demander aux uns aux autres de faire profil bas pour qu'on ne vous taxe pas. Pourquoi ne vous taxe pas? Merci beaucoup.
D'accord. Merci beaucoup, Isidore, hein, pour votre intervention. Je pense que Isidore, c'est le dernier auditeur hein, pour le compte de cette émission de ce mardi. Nous revenons en plateau, chers confrères, pour faire un tour de table et clôturer l'émission, bien sûr. Adam?
Mais j'ai été très interpellé par les auditeurs. Je pense que je dois leur donner des réponses. Je pense que je ne suis pas là en tant que commis de l'État ou d'un parti politique que ce soit. Je le répète, je suis journaliste, j'ai mes convictions et je pense que ce que je fais, je le fais avec foi. D'abord, si je me suis rendu au Ghana, c'est pour... Les gens vous disent qu'ils sont des journalistes d'investigation. Et ils vous donnent tous les jours de fausses informations. Moi, pour donner des informations, je vais toujours à la source. Et je pense que je continuerai mon travail de cette manière. Que je sois payé par X ou Y, demandez à vos journalistes d'investigation qui les payent pour qu'ils fassent des investigations. Faire des investigations, ne pensez pas que c'est chose aisée. Et le doyen chose était passée ici la dernière fois
qui Comblant
a Radi Comblant pour faire ce travail sur Bella Bello, tout ce que ça lui a coûté. C'est pour ça je ne dis pas que je suis journaliste d'investigation, mais je fais mon travail comme cela se doit pour venir donner des informations. Depuis toujours, on nous a dit la centrale Kekeli ne travaille pas, Contour Global ne fait rien. Mais voilà, la ministre a fait une sortie pour vous dire que tout ça là est faux. Parce que les journalistes d'investigation n'ont jamais été sur le terrain. C'est pour ça que je me suis rendu au Ghana pour savoir concrètement quel est le problème avec la crise que nous avons chez nous. Alors, pour ce qui concerne l'examen, je n'ai pas dit qu'il faut garder le probatoire. J'ai dit tout simplement que ailleurs, cela ne s'appelle plus probatoire, mais il y a un examen qui se passe puisque nous héritons tout ce que nous faisons dans notre éducation du colon français. Je dis, en France, voilà ce qui se passe et on parle de baccalauréat anticipé. Quand le français dit baccalauréat anticipé, qu'un certain Christian ne vienne pas me dire que lui, il a passé le baccalauréat anticipé et que ce n'est pas un examen. Alors, je ne sais pas ce qu'il appelle baccalauréat. Le baccalauréat, désormais, c'est une évaluation. Je pense que les gens doivent savoir raison garder.
Oui, mais Eric, sur ce point, c'est avéré quand même que ce n'est pas un examen. On appelle le bac français,
Pascal,
ce n'est pas un examen.
Pascal, quand on dit... quand on dit baccalauréat, c'est quoi? Baccalauréat pour vous, c'est quoi? Le français dit c'est un baccalauréat anticipé. Vous dites que ce n'est pas un examen? Les enfants ont été convoqués. Ils sont là actuellement en train de composer. Pourquoi vous dites que ce n'est pas un examen?
Mais c'est juste peut-être une évaluation.
Parlez d'évaluation? Oui. Mais le français même dit
d'accord, c'est un baccalauréat. D'accord, on va pas ouvrir un autre débat, s'il te plaît.
Oui, on va ouvrir ce débat-là après. Mais je dois finir.
Rapidement.
Et je ne dis pas que ce qui se passe dans cette crise énergétique-là ne me concerne pas. Je subis ça tout le temps. Parfois, pour paraître, vous attendez jusqu'à 3 heures du matin avant de démarrer vos machines pour travailler. Et donc tout le monde subit ça. Je ne suis pas en train de défendre qui que ce soit. Mais je prends les propos qui ont été tenus par la ministre et les gens qui ont en charge l'énergie dans notre pays. C'est tout ce que je fais. Mais diantre, si les gens veulent traiter cela de je ne sais quoi, c'est leur problème.
D'accord, merci beaucoup, Adam.
Oui, je pense que c'est vrai ce qu'il faut dire par rapport aux auditeurs. Je pense qu'il est très opportun de rappeler aux uns des autres de pouvoir un peu dépassionner le débat. Parce que vous savez, nous faisons des recherches. On peut commettre des maladresses. On peut commettre des maladresses, mais orienter des propos assez tranchants sur des journalistes, je pense que ce n'est pas assez bien. Et ma seconde chose, c'est lié véritablement à cette question énergétique. Cela nous interpelle tous. C'est vrai, la société a imposé un plan de rationnement, mais nous-mêmes, dans les usages quotidiens de ces ressources-là, puisque aujourd'hui nous parlons de l'énergie. Mais lorsque nous voyons également le gaspillage qui se fait, lorsqu'on parle de l'eau, cela interpelle. C'est vrai qu'il y a un sujet qui a fait notre machette aujourd'hui concernant donc le 10e forum de l'eau. Et je pense que c'est le moment d'interpeller les uns les autres pour qu'on n'en arrive pas là. Que vous soyez sous forage ou vous utilisez de l'eau de la T2, pensons déjà au rationnement de l'eau. Faisons un usage rationnel déjà de ces ressources-là, pour que demain, nous également, nous contribuions.
D'accord, ok. Merci beaucoup, Adam. Isidore ?
Non, juste, je ne voulais pas répondre à mon confrère. Je me suis interpellé quand il parlait de journalistes d'investigation qui donnent... Attends.
Non, mais on laisse Isidore aller.
Je ne voulais pas lui faire la misère en le répondant. Bon, bref, tout ce qui a été dit, les gens se sont plus apaisantis sur l'énergie. C'est ça qui nous préoccupe aujourd'hui. Et il va falloir tout faire pour que
nous puissions
sortir des méandres et sortir de la gestion conjoncturelle de la crise et avoir une vision structurelle pour pouvoir nous permettre d'évoluer à long terme. Et je voulais aussi présenter mes excuses à mes lecteurs. Le journal aujourd'hui, c'est pas ma une. Les couleurs ont chamboulé. Le bleu cyan est devenu noir. Le noir est devenu bleu cyan.
Non, on n'a pas fait encore.
D'accord. Mais ce qui est sûr, il y a l'écriture qui est là.
Oui.
Les articles aussi sont là. Merci.
Il y a un problème au niveau de l'imprimerie.
D'accord. Merci beaucoup, Isidore. Oui, Jean-Baptiste, rapidement.
Okay, je crois que la question énergétique a occupé un grand pan de nos débats et je crois que cela doit interpeller les décideurs politiques pour que des solutions idoines, on parle bien de solutions idoines, soient quand même trouvées dans les meilleurs délais. Parce que à cette allure, je crois que l'économie va subir un grand coup si des solutions vraiment réelles et durables ne sont pas trouvées à la crise que nous subissons. Et si d'autres pays de la sous-région ont commencé par penser à des solutions alternatives avec les centrales nucléaires, je ne crois pas que c'est le Togo qui doit faire exception. Parce que, vous savez, s'il y a des priorités, il y a des urgences nationales, je crois qu'on peut quand même sacrifier un pan du budget pour consacrer à cela, pour pouvoir faire tourner l'économie.
Sinon, justement,
on ne doit pas quand même mettre ce problème en jachère.
D'accord, sinon, merci beaucoup Jean-Baptiste. Je pense que tout cela n'est que justement une prévision et avec une prévision et une vision également éclairée, je pense quand même qu'on va y arriver. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Alors, c'est vrai, nous n'allons pas ouvrir le débat, mais comprenons tout simplement que alors quand nous parlons alors de pré-bac en France, alors ce n'est pas un examen parce que après même d'ailleurs cette évaluation, il n'y a pas un diplôme qui est délivré, donc ce qui veut dire que ce n'est pas un examen et il est c'est très important quand même de garder cela. Alors, Adam, merci beaucoup à vous d'avoir participé à ce débat. Eric, merci à vous aussi d'avoir participé à ce débat. Eric, Isidore, merci à toi. Jean-Baptiste, merci d'être passé alors dans cette émission. Thomas était d'ATV à assurer la mise en onde. Jérôme Akoutia a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve déjà demain à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. Portez-vous bien.